Radio Okapi. Journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
Les forces armées de la République démocratique du Congo appelées à redoubler d'efforts pour sécuriser la population de la région de Beni. Cet appel émane du chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation à Beni, trois jours après l'attaque par les ADF qui a fait 10 morts au quartier Mangodomo dans la commune rurale de Mangina. Une journée d'échange hier à Kinshasa avec les mandataires publics dans le cadre de la vulgarisation de la loi organique sur la Cour des comptes. C'est pour apprendre aux mandataires, principaux acteurs de gestion des finances et des biens publics, leur devoir sacré de redevabilité en matière de gestion des finances publiques envers la population. L'invité de ce journal est Patrice Navarro, chef de bureau UNMAS, le service des Nations Unies pour la lutte anti-mine. Dans un entretien avec Sadiq Aboubakar, il dresse le bilan des activités de ce service depuis l'année 2023. Bonjour à tous. Le chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation à Beni appelle les FRDC à redoubler d'efforts pour sécuriser la population de la région. Omar Kavota lance cet appel trois jours après l'attaque par les ADF du quartier Mangodomo dans la commune rurale de Mangina, attaque qui a fait 10 morts. Il demande aux armées congolaises et ougandaises d'anticiper ce genre d'attaque. Omar Kavota est au micro de Marc Marofimbo.
Nous voudrions ici exprimer notre solidarité avec la population de Mangina, les familles éplorées, mais également nous voudrions appeler la population à toujours faire confiance à son armée, à coopérer avec les forces de sécurité et de défense, mais également à l'armée, et surtout à la coalition FRDC-UPDF, de redoubler des efforts dans le cadre d'anticipation des événements, dans le cadre de la poursuite de ses ennemis, afin que la commune de Mangina ainsi que celle de Moulekera en ville de Beni soient à l'abri de la menace. Dans l'ensemble, le territoire de Beni et le territoire de Mambasa doivent faire plus objet d'attention de FRDC et des éléments UPDF afin que la paix et la sécurité y soient rétablies au plus tôt.
Toujours dans la région de Beni, la police de la MONUSCO UNPOL a lancé hier des travaux de construction des bâtiments de la police de protection et prévention des violences sexuelles. Il s'agit de la construction de 2 cachots, de latrines et d'un enclos dans la ville de Beni, ainsi que de 2 bureaux et de 2 cachots à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Pour la police de la MONUSCO, cet appui vise à lutter contre l'évasion des détenus et à améliorer leurs conditions de détention. Confirmation du commissaire supérieur Faustin Ishaï, chargé des opérations et renseignements de la police dans la ville de Beni. Il est au micro de Grévis Salomon.
Ces ouvrages à notre police, ça va constituer la sécurité. Parce que vous voyez, nos services de PVS, il est vrai comme ça. Il n'y avait pas tellement la sécurité. Il fallait qu'on puisse clôturer ça pour mettre la sécurité des gens qui seront jugés là-bas. Parce qu'on remarque les gens qui fuient quand ils les reprochent de quelque chose. Mais à ce moment ici, ça sera un peu compliqué quand on va clôturer. Il n'y aura pas de fuite. C'est cette sécurité que nous aimons que ça puisse exister. On avait ces besoins-là. On cherchait quelqu'un qui pouvait nous donner main forte. Nous avons plusieurs cas de violence dans notre zone, qui est zone opérationnelle où il y a la guerre. Cette fois-ci, je pense que l'encadrement sera bon pour les gens qu'on mettra les mains. Si on arrêtait quelqu'un, c'est toute la population qui venait toujours derrière. Il n'y avait pas moyen d'empêcher ces gens-là d'entrer. Mais cette fois-ci, vous voyez qu'on va sécuriser. Parce que ce n'est pas n'importe qui va avoir la facilité d'y entrer facilement.
Notez que le coût global de ces travaux, qui vont durer 3 mois, est de 78 000 dollars américains. Nord Kivu encore, des cabines téléphoniques pour des appels gratuits sont placées dans les sites de déplacés. Le but est de permettre la réunification des familles dont les membres ont été séparés suite à la guerre. Il s'agit du projet PLF, Protection des liens familiaux, implémenté par le Comité international de la Croix-Rouge en partenariat avec la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Dans les camps autour de la ville de Goma comme Boulengo, Lushagala et Bouimba, les cabines publiques connaissent un grand engouement. Il en est de même au site de Rusayo dans les territoires de Nyiragongo. Chris Mukand a visité quelques-uns de ces sites.
Cet appel passé à partir d'une cabine téléphonique rassure son émetteur qui vit dans le site de déplacés des Rosayo. Nzebanita Sebainzi, venu de Kichanga, habite ce camp depuis le 9 octobre 2023. Pour lui, cette initiative est une véritable aubaine.
Chaque fois que tu manques de l'argent pour t'acheter des crédits, tu as l'occasion de passer tes appels gratuitement grâce à la cabine de la Croix-Rouge. Tu as l'occasion d'avoir des nouvelles des autres membres de famille. J'ai eu l'occasion de communiquer avec des amis restés à Kichanga, Rubaya, Ngungu, voire Ufamanga.
Muyibombe David est sécuriste de la Croix-Rouge, ici au camp de Bulengo, au quartier Lac Vert. Il travaille au sein du projet protection des liens familiaux.
Lorsque les gens ont fui, il y a eu séparation des membres des familles. Il y a des gens qui peuvent se retrouver au niveau du camp, sans qu'ils sachent là où se trouve le leur. Maintenant, la Croix-Rouge essaie à ce que les gens qui se sont séparés parviennent à être en famille. L'appel est gratuit, ce n'est pas payable.
Depuis le lancement de ce projet, le 20 février 2024, plus de 11 000 appels ont été passés à travers ces cabines téléphoniques. 43 enfants non accompagnés ont été retrouvés, dont 7 ont déjà été réunifiés avec leurs familles respectives. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Et puis nous apprenons le pillage mardi de la sous-station de la RTNC dans le territoire de Rutshuru par des présumés combattants du M23, le comité territorial de la jeunesse ainsi que le notable local qui confirme l'information ont dans un communiqué de presse daté de mercredi affirmé que les auteurs de cet acte se sont fait passer pour des techniciens venus pour la maintenance des équipements. Le condensé de ce communiqué avec Gabriel Wamenia.
Dans ce communiqué, le président du comité territorial de la jeunesse précise que les matériels et les équipements de la radio et de la télévision ont été emportés en plein jour par des hommes portant la tenue des rebelles du M23. Il était 11h locale lorsque ces hommes sont arrivés à bord d'une jeep à la station située dans la concession pénitentiaire communément appelée Pena. Dans les mêmes documents, Twizer et Sebachiti, patient, dénoncent les massacres des civils perpétrés par les rebelles du M23 dans les villages de Rwanguba et Bouma où plusieurs personnes ont été ligotées avant d'être brûlées vives. Cet acteur ainsi que les notables du territoire de Rutshuru alertent également les autorités compétentes ainsi que la communauté internationale sur ce qu'ils qualifient de tragédies humaines commises par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi. De son côté, le directeur provincial de la RTNC dit avoir été informé de ce vol, ajoutant qu'il attend des preuves tangibles au sujet de cette exaction avant de s'exprimer. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
La Cour des comptes a organisé hier à Kinshasa une journée d'échange avec les mandataires publics dans le cadre de la vulgarisation de sa loi organique. L'objectif étant d'apprendre aux mandataires, principaux acteurs des gestions des finances et des biens publics, leur devoir sacré de redevabilité en matière de gestion des finances publiques envers la population. Il s'agit d'une troisième journée de vulgarisation de cette loi qu'organise cette institution comme instance supérieure de contrôle des finances publiques en RDC. Reportage Jeff Ngoy.
Premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, circonscrit le cadre de cet échange pour les mandataires de l'État.
C'est la raison pour laquelle la Cour des comptes a lancé depuis l'année dernière un programme de vulgarisation de sa loi. Cette activité a pour objectif principal d'échanger avec les mandataires publics sur la mise en œuvre de leur devoir sacré de redevabilité vis-à-vis du peuple congolais à travers la Cour des comptes en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics.
Ministre du portefeuille, Adel Kayinda déplore le comportement des commissaires aux comptes.
En ce qui concerne les commissaires aux comptes, il s'est fait une pratique qui a eu des commissaires aux comptes œuvrant dans les entreprises du portefeuille qui sont allés au-delà du mandat. Et alors on a compris qu'il y avait maintenant une habitude, et cette habitude s'est soldée par des pratiques pernicieuses, où quand on présente les états financiers et que le résultat est disproportionné.
Évoquant la rétribution des mandataires publics, le procureur général près la Cour des comptes interpelle les mandataires qui s'octroient des émoluments très élevés sans se référer à leur instance compétente, qu'est l'Assemblée générale où ils sont juges et partis.
Dans la province du Maniema, la Direction générale des recettes du Maniema a lancé depuis le 2 avril l'opération de recouvrement forcé des impôts fonciers, impôts sur le revenu locatif et la retenue locative. L'inspecteur coordonnateur et chef de mission du recouvrement qui livre cette information à Radio Okapi appelle tous les contribuables à passer à la DGRMA pour s'acquitter de leurs devoirs. Joseph Kahambwe ajoute que cette opération ira jusqu'au 2 mai 2024. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Vous savez, aujourd'hui, dans la province du Maniema ou dans la RDC, l'incivisme fiscal est devenu, on peut dire, la machine même des cerveaux de plusieurs Congolais pour sous-développer le pays. Alors, le meilleur moyen que nous avons trouvé, c'est de passer d'abord à la vérification, qui sont ceux qui ne payent pas l'impôt foncier. Et de l'autre côté, nous sommes en train de vérifier aussi qui sont ceux qui ont déjà payé. Et on va relier les deux pour essayer de passer maintenant aux ordonnancements et recouvrements. Nous demandons à tous les de bien payer leurs impôts. Parce que sans l'impôt, on ne peut pas développer un pays. C'est la première recette de la République. D'où, pour cette phase de vérification, ordonnancement et recouvrement, nous n'avons plus pitié aux agents de sous-développement. Mais ceux qui ne payent pas les impôts, tous, il y a de ceux-là qui seront transférés devant les instances judiciaires jusqu'à procéder même, à ouvrir des procédures qui vont nous permettre de recouvrer même d'une manière forcée les recettes de l'État dues aux impôts fonciers et impôts sur les revenus locatifs.
L'Alliance nationale des autorités traditionnelles ANATC salue la nomination de la nouvelle première ministre congolaise et cette plateforme des chefs coutumiers plaide que dans le prochain gouvernement, le ministère des Affaires coutumières soit dirigé essentiellement par une autorité du pouvoir coutumier. C'est pour éviter des éventuels conflits d'intérêts selon elle. Cette prise de position a été exprimée au cours d'une conférence de presse animée hier ici à Kinshasa. Wilbert Kyungu Kisebwe, président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles, en parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Ce que nous avons besoin pour le moment est que le ministère des Affaires coutumières puisse retourner à l'ANATC, celle qui avait demandé ce ministère depuis Kikwit. Voilà, s'il n'y avait pas ce ministère depuis longtemps, ça a eu lieu à partir de l'ANATC. C'est vous et moi, nous devons nous consulter pour qu'il y ait un ministère et que nous sortons du ministère de l'Intérieur, que nous soyons tout court ministère des Affaires coutumières. Et que l'Intérieur gère aussi l'Intérieur, la sécurité, décentralisation et autres attributions. Il n'y a pas de problème.
Sud Kivu à présent, la Fondation Minja, en collaboration avec la MONUSCO, a organisé du 3 au 4 avril un atelier avec les journalistes, les artistes et la société civile sur la désinformation, la mésinformation et le discours de haine. La Fondation Minja a ainsi sollicité et obtenu l'accompagnement de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO pour la tenue de cet atelier à Bukavu. L'objectif général est de mener des campagnes de lutte contre les discours de haine, la désinformation et la mésinformation, notamment ceux liés au processus de désengagement de la MONUSCO au Sud Kivu. Joyce Kage, chanteuse et présidente de Minja Foundation, est au micro de Rachel Kiesembangu.
Nous avons organisé cette activité parce que nous avons constaté que ces phénomènes, ces concepts, ce sont des concepts très très importants et qui touchent négativement notre société, qui engendrent des guerres et même beaucoup de problèmes dans notre société. Nous avons jugé bon d'apporter cet atelier ici à Bukavu pour essayer d'impacter positivement notre société et de diminuer sensiblement ces genres de discours de haine et la désinformation et la mésinformation aussi. À tous ceux qui participent à cet atelier, nous attendons d'abord qu'ils comprennent bien ces concepts, c'est quoi les discours de haine, c'est quoi la désinformation, c'est quoi la mésinformation. Ensuite, nous attendons aussi qu'après cet atelier, qu'ils aillent parler de ces ateliers en dehors dans la société pour éviter ces problèmes que nous avons dans notre société qui engendrent des situations néfastes. Ça engendre même la mort, ça engendre des conflits qui amènent la guerre. Ça ne permet pas le développement de notre société.
Actualité internationale. Au Ghana, le mariage d'une fillette de 12 ans avec un religieux fait scandale. Le procureur général ainsi que le ministère de la Justice ont demandé l'ouverture d'une enquête sur ce mariage d'enfants qui a eu lieu en périphérie de la capitale Accra entre un prêtre traditionnel de la communauté Ga âgé de 63 ans et une fillette de 12 ans. une union illégale au regard de la constitution ghanéenne. Face à la polémique qui enfle, l'entourage du prêtre se défend de toute maltraitance. Des dirigeants traditionnels locaux affirment qu'aucune relation sexuelle n'aura lieu avant la majorité de l'enfant, l'union étant purement spirituelle.
L'invité.
Le monde entier a célébré hier 4 avril la journée internationale de sensibilisation au problème des mines. Le service des Nations Unies pour la lutte anti-mines, UNMAS, annonce avoir détruit plus de 1500 munitions et neutralisé 6 engins explosifs improvisés entre 2023 et 2024 à Beni au Nord Kivu. Avec ce chiffre, on voit que Beni est l'épicentre des engins explosifs dans le pays. Patrice Navarro, le chef de bureau des UNMAS Beni, explique la situation dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Patrice, bonjour.
Bonjour.
Quel état des lieux faites-vous de la situation des engins explosifs dans la région des Beni?
Nous avons un volume important de travail au niveau des engins explosifs, donc des munitions non explosées, et des UXO, donc des munitions tirées non explosées. Le volume restera toujours important. Avec diverses opérations militaires, cette évolution ne cesse que de grandir. Après, tout ce qui est IED...
IED, ça veut dire
Improvised Explosive Device, EEI, engin explosif improvisé. Là, on est clairement dans une augmentation significative. D'après nos renseignements, les ADF mettent en place des cellules autour de Beni et dans Beni. Et pour preuve, la semaine dernière, nous avons neutralisé un EEI qui était stocké dans une maison à Beni.
Dans la ville de Beni?
Dans la ville de Beni.
Mmh. En termes de bilan, qu'est-ce que nous pouvons en savoir?
En 2023, on a détruit 1575 munitions.
Des munitions
abandonnées ou tirées non explosées suite à des batailles. C'est dans la grande région de Beni. Après, tout ce qui est small arms, on parle de la cartoucherie, nous avons détruit 51 800 cartouches. En termes d'IED, engins explosifs improvisés, il y a eu 4 IED en 2023 neutralisés, qui représentent déjà un beau bilan. En 2024, on est déjà à 2 EI neutralisés et nous avons déjà fait 24 missions de destruction de munitions. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une masse est là pour préserver des vies et nous essayons de faire notre maximum pour cela. Et effectivement, malheureusement, on a une recrudescence au niveau des engins explosifs, une recrudescence de personnes impactées. Alors, ça va du blessé malheureusement au décès.
Quoi. Alors, UNMAS intervient seulement en aval ou bien il y a aussi des activités ou des actions en amont que vous faites pour prévenir?
Ah oui, alors ça, c'est vraiment le cœur du métier au niveau de UNMAS. Donc pour cela, nous avons des partenaires et par exemple, tout ce qu'on appelle l'éducation au risque pour la population. En 2023, nous avons fait réaliser 501 sessions de sensibilisation, ce qui est juste énorme, avec un chiffre total de 28 000 personnes dans la région de Beni sensibilisées.
Sensibilisées au danger des mines.
Au danger des munitions non explosées et des EEI, des engins explosifs improvisés. Donc il y a eu 4 800 hommes et 5300 femmes. Voilà. En 2024, on a déjà effectué 228 sessions de sensibilisation, 9773 personnes déjà sensibilisées.
Et est-ce qu'il y a un impact qui est constaté après ces séances de sensibilisation?
Alors effectivement, malheureusement, on a constaté que où il n'y avait pas eu trop de sensibilisation, il y avait eu malheureusement des incidents. Et effectivement, la population est extrêmement réceptive à ces sensibilisations et force est de constater qu'il y a une réelle efficacité.
Il y a une réelle efficacité. Oui. Pourtant, en termes de bilan, il y a une croissance des chiffres.
Oui, mais comme je vous ai expliqué précédemment, c'est lié à l'activité, aux opérations militaires. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des opérations militaires importantes, plus vous allez avoir des mouvements de groupes terroristes, plus vous allez avoir des munitions abandonnées et des munitions tirées non explosées. Ce qui explique l'augmentation des incidents.
Et quels sont les défis ou quel est le défi que vous avez dans l'exécution de vos activités?
Le défi, c'est préserver des vies. Ça, c'est notre plus grand défi. Après, c'est de sensibiliser toujours un maximum de personnes, mais ce qui n'est pas forcément toujours évident, parce que au vu de la situation sécuritaire, on a le plus grand mal à parvenir dans certaines zones. Alors, honnêtement, j'aimerais saluer au niveau de la population, une masse a quand même bonne presse, honnêtement. À chaque fois que nous réalisons une mission, par exemple, de destruction d'IED ou de munitions non explosées, la population est très réceptive et très contente de notre action en général.
Et quel est le niveau de votre collaboration avec l'armée, avec la police?
Alors, Nous, une fois de plus, une masse, on a cette chance-là, quelque part, d'apporter quelque chose de concret. C'est-à-dire, la police a un problème, nous, on arrive, on solde le problème. Donc là, c'est du donnant-donnant.
Donc l'impact du travail de UNMAS est visible.
Tout à fait. Nous, on a le sentiment de contribuer réellement à l'atténuation de la menace.
Alors, Patrice N., quel message vous adressez à la population à l'occasion de cette journée du 4 avril, qui est une journée internationale de sensibilisation au problème des mines?
Alors, Le message est clair, ne jamais baisser la garde, être toujours vigilant. On est conscient qu'on ne donne pas assez de sensibilisation, parce qu'idéalement, il faudrait sensibiliser 100% de la population, mais techniquement, c'est compliqué. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours avoir un travail de proximité avec les forces de sécurité, police, armée, pour être au plus près, de nous permettre de réagir au plus vite sur un incident, dans un souci de préservation des vies, toujours.
Merci.
Merci à vous.